recherche au CNRS, dont il a obtenu la médaille de bronze en 2016. Il est rattaché au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, le gros laboratoire en France, et il y assure plusieurs responsabilités. Alors, je vais aller un peu vite sur tout parcours, mais éventuellement compléter par la suite, peut-être qu'il y aura des questions d'ailleurs. Il a des responsabilités dans ce laboratoire, parmi elles, il est responsable de l'équipe anthropologie de la vie et des représentations du vivant qu'il a créée avec Dimitri Karadimas, qui est un collègue malheureusement disparu trop vite et dont on salue la mémoire ici. Et puis, il est responsable du projet La vie à l'œuvre, explorer les potentialités du bio-art et du bio-design. Alors là, je vais vous parler, parce que je trouve ça assez fantastique. David, tu pourras
nous en parler après. Oui, je veux bien.
Sacrificiel. dont il va déployer les implications tout au long de son ouvrage. Alors, bon, on reviendra sans doute hein, sur cette, peut-être cette, pour vous dire en deux mots, en fait, il va aborder le sacrifice non pas simplement comme une mise à mort, comme un échange, mais dans le cadre d'un régime de coactivité, c'est-à-dire en, en considérant, en prenant en compte l'activité qui est déférée au non-humain qui participe à ce sacrifice. Je simplifie énormément, mais je pense que tu développeras mieux que moi. C'est juste pour positionner un peu le thème. Et donc, il va s'intéresser avant tout aux dynamiques relationnelles à l'œuvre au sein du rituel. Les relations qui sont instaurées au sein de ce rituel entre les humains, mais aussi les non-humains avec lesquels on communique, et au rapport d'homologie entre ces activités rituelles, cette dynamique relationnelle au sein du rituel, et les activités sociales. Bien un peu, tu, à plusieurs reprises, le terme qui est employé, c'est celui de miroir, hein, en fait. Donc, des dynamiques relationnelles qui sont aussi bien au sein de l'hôtel et qui viennent comme en miroir reproduire celles qui se reproduisent à d'autres échelles, par exemple dans la production du maïs, ou les activités politiques. Du titre « Le chemin et le champ », je vais tirer le fil du chemin, et la question qu'on pourra poser par la suite à tout, c'est pourquoi d'ailleurs le chemin et le champ, donc il y a toute une raison que tu dévoiles aussi en conclusion. On va tirer le fil du chemin que trace l'auteur en débutant son ouvrage par une image choc d'un sacrifice de Nano au sommet du mont Zemkwal-Tepec. C'est le début du livre, et je pensais que c'était intéressant de vous le lire. C'est d'autant plus intéressant.
C'est
que...
cette image-là, mais.
Bon, oui,
vas-y, non, c'est très bien.
Alors, chaque chapitre, le début du livre commence ainsi, commence par un extrait d'oraison, transcrit en mixé, la langue des mixés, et traduit au français. Bouche de la colline, bouche de la montagne, toi, tu vois, toi, tu entends. Nous, maintenant, nous déposons, nous, maintenant, nous pesons devant ton regard. Ce avec quoi nous manifestons notre respect. Fin de citation. Le sang jaillit du cou du dindon qu'Alfredo vient de décapiter avec une machette. Sa femme, Maria, qui tient l'animal, répand cette substance sur les éléments qui ont été disposés dans un carton placé au sol. Des petites tortillas, des boulets de pâte de maïs, de la farine de maïs, des œufs. Alfredo seconde son mouvement en répartissant du mesclage et du jus d'agave fermenté, coloré en rouge avec du beaucoup, pour compléter le repas d'un genre particulier qu'il sert. Tandis que l'animal se débat et que des sons sortent encore de sa gorge, Alfredo continue à prononcer une prière en mixé, une langue amérindienne du Mexique. Nous, maintenant, nous déposons notre tortilla, notre bouillon. Nous, maintenant, nous déposons notre picoreuse, notre gratteuse, notre chair volaille. Nous la déposons. Puisses-tu en manger beaucoup? Puisses-tu en boire beaucoup? Et là, le contexte est posé. Nous sommes au sommet du mont, Zemkwal-Tepec, etc. En fait, à partir de là, on va suivre pas à pas les parcours rituels ponctués par les invectives des oraisons, adressées à divers participants, humains, non humains, et parmi eux adressées aussi à celui qui fait vivre, qui est sollicité pour favoriser les processus vitaux. Alors, quand je dis image choc, en fait, j'avais pas encore consulté Eric Pitrou. J'ai envoyé le terme d'image en pensant à un cinéma, la première image, dans un film, ça commence par quelque chose d'assez choc. Parce qu'à la lecture de l'ouvrage, les descriptions apparaissent comme autant de séquences illustratives qui font penser à des morceaux de film. En tout cas, moi, c'est le sentiment que ça m'a donné. Les processus rituels se déroulent sous nos yeux de lecteur. Et avec eux, l'auteur va nous emporter dans sa réflexion. Pour ceux qui sont anthropologues, l'approche de l'auteur est pragmatique, c'est-à-dire qu'il va se placer au plus près de l'action et de ses détails, tout ce luxe de détails. Et tout comme les gestes vont apparaître enchâssés dans la parole, eh bien, l'analyse théorique elle-même se trouve elle-même enchâssée dans cette observation concrète. Je dirais que le terrain aussi est érigé en théorie en quelque sorte. L'apport ethnographique n'est pas fait que d'images, cependant, puisque, on l'a vu dans l'extrait que je viens de lire, il est aussi nourri de discours qui sont des discours bien particuliers. Ces discours qui sont imbriqués dans les actions, et ces discours, c'est la relationnel entre les participants et les non-humains. Et Péricliteau, avec la prise en compte de cette parole rituelle, plus précisément, il va nous ouvrir la porte des conceptions vernaculaires, donc en lien avec la langue vernaculaire, la langue locale. Il nous ouvre la porte de ces conceptions et puis du pouvoir qui est attribué par les natifs à la langue lycée. Ça, je l'ai retrouvé sur mon propre terrain aussi, le pouvoir de la langue vernaculaire dans les oraisons chamaniques. Et surtout, il va nous montrer comment les lycées construisent la présence et les actions des entités invisibles auxquelles ils demandent bienfait et soutien dans une construction ici de cette présence. Donc avec cette première séquence choc, il va poser une série de questions que je vais résumer ici en une seule, hein, mais c'est bien sûr réducteur, c'est la question qu'il pose dès le départ, et à la suite de laquelle il va dérouler les chemins de son ouvrage, à savoir selon quels principes et quelles modalités ces interventions rituelles se coordonnent-elles avec l'activité humaine, comment convient-il de penser le politique au sein de ce genre de collectif qui inclut humain et non humain, les entités de la nature, sachant que ces non-humains sont rendus présents justement par les gestes et la parole rituelle. Et je laisse ici la parole à Péricliteau pour poursuivre le chemin.
Merci beaucoup Magali pour cette analyse synthétique vraiment brillante de tous ces fils qui ont été tendus dans le livre. Merci aussi à l'association Le Bistrot des ethnologues de m'avoir donné l'occasion de venir ici. Je suis vraiment très heureux parce que je regarde toujours avec un peu de jalousie depuis Paris le programme alléchant que vous proposez. Donc je suis très heureux d'être là, d'autant plus que le Mexique a chassé Montpellier d'une certaine façon, dans la mesure où jusqu'en 98, quand je voulais de l'exotisme et du sud, de la Méditerranée, je venais à Montpellier. Et après j'ai découvert le Mexique et depuis 98, je n'étais jamais revenu, donc voilà, c'est une bonne occasion.